Bien, bonjour à toutes et à tous. Non, ce temps de louange était particulièrement agréable, et c'est vrai que ce dernier chant, j'avoue, là, vous nous avez bluffé. Hein. Je ne le connaissais pas moi non plus, et je trouve que c'est formidable de pouvoir découvrir de nouveaux chants comme ça, dimanche après dimanche. On a beaucoup de nouveautés, hein, et en même temps, on mélange un petit peu les anciens, qui sont formidables aussi. Donc ça fait qu'on a un moment de louange qui est particulièrement agréable. Je vais prier peut-être avant de commencer. Seigneur, on est heureux de se retrouver ce matin, de partager ces moments ensemble. Tu nous fais du bien au travers de, ben déjà des relations que nous avons les uns avec les autres, mais aussi au travers de la louange, au travers de messages, de ce que nous vivons tous ensemble. Seigneur, tu nous combles. Mais tu ne nous combles pas uniquement le dimanche matin, tu nous combles tout au long de notre vie, toute la semaine, tous les jours. Et tu ne sommeilles ni tu ne dors pas, tu es toujours à nos côtés. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants de t'avoir à nos côtés, de savoir que nous sommes entre tes mains. Sois béni ce matin, au nom de Jésus. Amen. Vous savez qu'on est dans l'enseignement de Jean, et je prends la suite, je crois, de Luc, hein, Jean 15, et donc je prends la suite, puisqu'on a un enseignement systématique qui revient à peu près deux fois par mois, ou trois fois par mois, plutôt deux fois, mais en tout cas, ça fait depuis plus d'une année qu'on étudie cet évangile de Jean, qui est fantastique. Et ça tombe bien aujourd'hui, parce que Tahar, il a passé un petit extrait de film, une bande-annonce. Il a parlé de l'Église aussi, l'Église persécutée. Et justement, le texte qui correspond aujourd'hui à l'enseignement est lié à tout ça. Et j'ai intitulé ce que je vais vous partager par ce titre, « En opposition au monde ». Je n'ai pas choisi ce titre parce qu'il est d'actualité, hein, mais bien parce qu'il correspond au passage que nous devons étudier aujourd'hui. Ceci dit, j'ai envie de vous dire que jamais, depuis l'histoire de l'Église, jamais l'Église n'a été autant persécutée. Bien sûr, il faut faire attention à ce que nous voyons à la télévision, etc., et tout cette effervescence autour du djihad, de l'État islamique, etc., et ça rend les gens en France assez méfiants. Ça a tendance à nous rendre méfiants vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis des musulmans, etc. Et je pense que c'est bien que Tahar nous rappelle ce genre de choses ce matin. Et puis en même temps de voir que, voilà, les musulmans eux-mêmes, dans certaines régions, en Irak, etc., en Syrie, sont les premières victimes de ce qui est en train de se vivre. D'accord ? Je vais citer Ron Boyle Macmillan, chef du département de recherche et stratégie à porte ouverte internationale. Donc c'est une association qui est au service des chrétiens persécutés. Il affirme qu'il existe quatre sources de persécution dans le monde. L'extrémisme islamique, l'oppression communiste, le nationalisme religieux et l'intolérance laïque. Et il ajoute, le changement majeur constaté ces 30 dernières années a été le remplacement de l'oppression communiste par l'extrémisme islamique comme persécuteur principal des chrétiens au niveau mondial. Mais les autres forces d'oppression n'ont pas diminué pour autant. La Corée du Nord, staliniste, reste le pays où les conditions sont les plus dures pour les chrétiens. Et la plus importante communauté homogène persécutée reste celle des chrétiens de Chine, où l'évangélisation à l'extérieur d'un bâtiment, comme ça a été fait il y a deux jours, à l'extérieur d'un bâtiment d'église, est strictement interdite par la loi chinoise. Fin de citation. Vous voyez, quand même, ce qu'on pratique nous, ce n'est pas donné à tout le monde, hein, comme on dit. Hein. On va lire le texte de Jean 15. Et nous allons commencer, non pas au verset 18, bien que le paragraphe commence au 18, mais on va commencer au verset 17. Parce que quelque part, je crois que c'est la clé de tout le discours de Jésus du chapitre 15. verset 18, donc verset 17, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils les ont vues et ils ont haï et moi et mon Père. Mais que cette parole écrite dans leur loi soit accomplie. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi. Vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient, où quiconque vous fera mourir, pensera rendre un culte à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Vous avez remarqué, hein ? Donc verset 17. D'abord, la société qu'est l'Église, parce que nous sommes une société, est avant tout une société d'amour. C'est pour ça que j'ai commencé au verset 17. Nous sommes d'abord une société d'amour. C'est à l'amour que les chrétiens ont les uns pour les autres que le monde reconnaît que nous sommes les disciples de Jésus. L'amour, c'est le commandement par excellence, puisque Jésus l'affirme. Le premier commandement, c'est « tu aimeras Dieu hein, de toute ta force, de toute ta pensée, etc. » Et le deuxième commandement qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le philosophe Søren Kierkegaard disait « L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont comme deux portes qui ne peuvent s'ouvrir et se fermer qu'en même temps. » Deux portes qui ne peuvent s'ouvrir et se fermer qu'en même temps. Si tu n'ouvres pas l'une et si tu ne fermes pas l'autre, ben, ça ne marche pas. Vous avez déjà vu les deux portes ? Moi, j'ai vu ça dans un studio d'enregistrement où j'enregistre des messages pour la radio à Marseille. Il y a deux portes. En fait, tu ouvres une porte et puis juste derrière, tu en as une autre. Pour l'isolation. C'est à l'ancienne, hein ? Maintenant on a des moyens un peu plus techniques, mais voilà, c'est deux portes. Alors, la question du lecteur lambda qui va lire ce texte, d'accord ? Comment ça se fait que cet amour dont nous parle Jésus provoque autant d'animosité ? C'est intéressant comme question. Comment ça se fait que notre foi, notre religion qui parle d'amour, provoque autant d'incompréhension et d'animosité vis-à-vis des gens qui nous entourent. En fait, pendant longtemps, j'ai cru que c'était les bondieuseries et l'hypocrisie des croyants qui irritaient les gens. Ça peut l'être un peu, mais c'est pas ça. C'est pas ça. En tout cas, pas que ça. Parce que c'est quand même étrange qu'un peuple motivé par l'amour irrite à ce point les gens qui l'entourent, car le monde qui nous entoure parle d'amour. Au nom de l'amour, on en a encore parlé hier soir, au nom de l'amour, on autorise des tas de choses, même on les inscrit dans la loi. Et il parle tellement d'amour que finalement, c'est la confusion. Alors je vais vous dire ce que j'entends par ce texte, ou en tout cas ce que pour moi ce texte sous-entend. L'animosité envers les disciples de Jésus-Christ n'est pas d'abord sociologique, mais elle est théologique. Je vais m'expliquer. Les deux sont imbriqués l'un dans l'autre. Ma théologie c'est-à-dire ce que je crois qui vient de la Bible, provoque en moi une manière de me comporter. Ma théologie sous-entend mon comportement. Ce que je crois, c'est parce que je crois quelque chose que je me comporte, c'est parce que tu crois quelque chose que tu es là ce matin, autrement tu ne serais pas là. En fait, on pourrait employer deux mots, mais il y a la société de Dieu, hein. Donc on est la société de Dieu, et la société de Dieu a un code, a un, on va dire un manuel de façon de vivre qui est inscrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. On pourrait parler d'orthodoxie, ce que je crois, et d'orthopraxie, ce que je mets en pratique. Mais ça impliquerait beaucoup de domaines qui finalement n'ont pas attrait au texte. Par exemple, la liturgie. Vous voyez, on a chanté ce matin des chants, on a chanté des nouveaux. Il y a des églises, avant de chanter un nouveau chant, ça va prendre 10 ans. Après, ça, c'est très long, c'est pas possible, c'est très difficile. Il y a des églises qui sont encore... Alors il y a des chants, des anciens chants qui sont magnifiques, et on se régale de les chanter. Mais on accepte aussi les dons et les capacités de nouveaux compositeurs qui viennent nous apporter plus à notre liturgie. On a de la liturgie. Par exemple, vous remarquez que depuis quelques temps, je n'arrive plus à définir, mais on demande moins des chants. Il fut une époque où ici, on ne chantait pas si les chants n'étaient pas demandés par l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est une autre façon de fonctionner où, alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander des chants, on peut les demander, mais c'est quand même conduit, c'est travaillé, ils le font très bien. Donc voilà, et puis de temps en temps, il y a un chant qui se lève parmi l'Assemblée. Après, il y a la façon de vivre l'Église, la structure, la façon d'organiser les cultes, les réunions, le système un peu hiérarchique, enfin, vu de loin. Peut-être aussi qu'il fut un temps où le pouvoir de l'Église, au travers de la façon de s'organiser de l'Église, a suscité de l'animosité. Mais de nos jours, je ne pense pas que la structure de l'Église locale suscite de l'animosité vis-à-vis des gens à l'extérieur, puisqu'il y a séparation de l'Église avec l'État, etc. Vous êtes là parce que vous avez envie d'être là, ceux qui ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Je veux dire, il n'y a pas d'obligation, donc ça ne suscite pas l'animosité. La doctrine du salut, peut-être que ça énerve un peu nos contemporains lorsque nous affirmons qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Ça a tendance un peu à les énerver, hein, pour le dire. Écoutons ce que dit Jésus dans notre texte. Il nous donne les raisons de cette animosité dans les versets 18 et 19. Il nous dit « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. » Il faut le faire, hein, détester Jésus, hein. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde, et c'est pour cela que le monde vous déteste. Ce que tu vis et ce que tu prêches définit ce que tu es. Résultat, animosité, persécution. Je trouve que ces versets ont le mérite d'éliminer le facteur surprise. On n'a pas besoin d'être, on n'est pas surpris par la persécution. Et c'est la réalité. C'est malheureusement ce que nous vivons à plus ou moindre degré dans quelques contextes que nous nous trouvons. C'est sûr, quand tu nais dans une famille musulmane, bon, si tu te convertis, ça va être plus difficile que si tu te convertis du bouddhisme au christianisme ou quoique chez les catholiques, à un moment donné. Le catholique historique, hein, il y a quelques décennies, bon, tu te convertissais au protestantisme, à mon avis, tu étais un peu mal vu. Tu étais un peu persécuté quand même. Mais bon, mais il n'y a pas de facteur surprise. Au chapitre 3, verset 13 de Jean, on l'a lu. « Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Si le monde a de la haine pour vous, et il en aura, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Vous savez, le mot « monde » employé ici, c'est traduit du grec « cosmos ». Et « cosmos », ça désigne l'ordre moral créé, mais l'ordre moral qui est en révolte contre Dieu. L'ordre moral créé sur Terre, par la société qui nous entoure, c'est un ordre moral en rébellion contre Dieu. Ça, il faut. Hier soir, on a eu un exposé sur la théorie du gender et le mariage pour tous. Il faut se dire que toutes ces choses-là qui arrivent, c'est parce que notre monde est en rébellion contre Dieu, a enlevé Dieu de sa façon de fonctionner, de la construction de la société. Alors, lorsque tu prêches l'Évangile, lorsque tu sors comme samedi distribuer des Nouveaux Testaments, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train, tout simplement, de dénoncer l'ordre moral qui est en révolte contre Dieu. Même si tu dis rien, même si tu n'as pas de conversation, du moment où tu tends ça et que la personne voit, tu es en train de dénoncer quelque chose. Dans la tête des gens, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, ils te le disent. Oh, vous savez, moi je ne vais pas à l'église, mais oh, je crois. Mais moi, à l'église, ça ne m'intéresse pas. Donc, ils savent très bien que vous êtes en train d'inciter ou de leur proposer quelque chose. Lorsque tu vis dans les compromis de ce monde, tu ne mets pas le doigt sur les problèmes de ce monde. Tu t'associes au monde qui est en révolte contre Dieu. Par contre, si tu vis sans les compromis que ce monde t'offre, là, tu commences à mettre le doigt, sans parler, sans prêcher, tu commences à te dissocier du monde, et le monde a de la haine pour toi. Tu rencontres ça dans n'importe quel domaine, dans ton travail. Quand tu dois dire « je ne suis pas d'accord », je ne veux pas mentir. Si le monde est Jésus, c'est parce qu'il témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Jean 7, on l'a vu déjà. Le monde ne peut pas vous détester, dit Jésus, sous-entendant que ses auditeurs sont du monde. Le monde ne peut pas vous détester. Tandis que moi, il me déteste. Parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Là, il s'adresse à des personnes qui ne sont pas chrétiens. Et qui n'ont pas compris, en tout cas. L'essence de l'Évangile. Ce monde nous haïra parce que nous sommes des disciples de Jésus et parce que nous sommes des croyants. Nous ne sommes pas des gens superstitieux. Nous n'allons pas à l'église par superstition le dimanche. Le monde nous hait parce que nous faisons cause commune avec celui qui est mort pour nous. On fait cause commune avec lui. Avec celui qui fait l'objet de la haine suprême. Mais surtout, lorsque nous grandissons dans l'intimité avec lui, dans l'amour, l'obéissance, et que nous sommes féconds, la fécondité qu'on a des versets 1 à 16. Derrière l'idée du cep et des sarments, Jésus dit plusieurs choses. Hein. Verset 8, Luc nous avait parlé de ça. C'est bien de se le rappeler. « Mon Père a choisi... Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Verset 8. Verset 16. « Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Vous voyez, ça revient, c'est récurrent. « Nous avons les mêmes effets sur le monde que notre Maître. » On a les mêmes effets que Jésus. Tu as les mêmes effets que Jésus sur ce monde, ce Jésus que tu pries et qu'à la fin de tes prières, tu dis « au nom de Jésus ». Quand tu dis « au nom de Jésus », c'est de ce Jésus-là dont il est question. Ce Jésus-là, tu as les mêmes effets que lui. C'est quand même fou, hein ? Et lorsque tu vis Jésus, tu es perçu comme un étranger, peut-être même par ceux de ta famille. On l'a vu dans l'extrait. Lorsque tu vis Jésus, le monde te déteste parce qu'il aime les siens. Le théologien Don Carson dit ceci. Il ne s'agit pas ici d'une remarque sociologique à propos de la méfiance qu'ont les êtres humains à l'égard des étrangers, mais d'une condamnation morale. Quoi que tu fasses, du moment où tu dis « je suis chrétien, je suis disciple de Jésus », tu tombes sous le coup de la condamnation morale par ce monde qui a instauré sa moralité en rébellion contre Dieu. C'est quand même fou, hein ? Ça répond à la question du début. Comment l'amour, tu aimes et on te déteste ? Comment le message d'amour du Christ peut être aussi méprisé et détesté ? Mais parce que l'amour dont nous revendiquons n'est pas le même amour que ce monde. Ça n'a rien à voir. Le monde est une société rebelle. Le monde a du mal à tolérer ceux qui se soumettent joyeusement au roi des rois. Au roi des rois qui finalement on doit obéissance, puisqu'il est le roi des rois. Les chrétiens ne sont pas du monde, non pas parce qu'ils ne lui ont jamais appartenu, mais parce que Jésus le déclare, tout simplement. « Je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous déteste. » Il nous donne la raison. Alors attention, hein, si Jésus s'est révélé à nous, ce n'est pas parce que nous sommes plus sages ou meilleurs ou que les autres. Hein. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Jésus nous a choisis, c'est un mystère. Les meilleurs manuscrits en grec disent que ce mot-là, « choisi », c'est aussi le mot « institué ». Il nous a institués pour que nous allions et que nous portions du fruit. Choisi, mais aussi dans le sens d'instituer. Il nous a institués. L'amour qui nous unit en tant que disciples est unique. C'est vrai que ça ne devrait jamais devenir un nid douillet. Moi, je suis content, par exemple, que notre église locale, il y a eu un moment où on a eu besoin de se reconstruire, où on a focalisé notre attention sur nous, sur nos relations, et on continue à le faire, et c'est super. On fait des agapes, on se voit, on se côtoie, on prend soin les uns des autres, mais il y a aussi cet aspect où on regarde vers l'extérieur et on va proposer quelque chose. Ça s'est fait samedi. On regarde vers l'extérieur. On n'est pas simplement voilà, le nid douillet. Après, les chrétiens doivent fournir à ceux qui les entourent l'occasion de pouvoir ressentir, aussi goûter, à cet amour que nous proposons, qui est différent de celui du monde. Il y en a qui vont le rejeter. Il y en a qui vont nous mépriser par rapport à ça. Mais d'autres vont être interpellés. Ils vont dire, mais il y a quand même quelque chose de particulier chez ces personnes-là. Et ils vont y prendre goût. Et je dis, on peut le faire maintenant pendant qu'il en est encore temps. On peut continuer à développer les relations avec les gens autour de nous pour pouvoir leur faire goûter ce que nous vivons. Inviter les amis à une agape, ça c'est... Moi je suis sûr qu'on est prêt à faire ça. Mais à fond quoi. C'est-à-dire, on fait ça, mais je suis sûr que les gens vont sentir quelque chose. Sûr, ils vont être touchés. Mais pour pouvoir parler pour aux autres, il nous faut nous efforcer de vivre avec eux. Bien sûr, on prend le risque d'être détesté, rejeté. Vous savez, pas besoin de donner une Bible pour être rejeté. Hein. Aimer dans la vérité, fait aussi cet effet. Aimer dans la vérité. Ça prend du temps. Parfois, beaucoup plus de temps et d'investissement. Mais on s'oppose à l'injustice aussi, en aimant dans la vérité. On s'oppose aux mensonges. On s'oppose à la haine, à la médisance, on s'oppose aux idées, aux conceptions que ce monde défend, au risque d'être détesté même par les gens de nos propres familles, parce qu'on n'est pas d'accord avec leur fonctionnement. Et j'en connais quelque chose. Refuser le compromis, de toute façon, engendre la méfiance et la haine et le rejet. Nous sommes des anciens rebelles. Il n'y a pas que moi qui est un ancien rebelle. Nous sommes tous des anciens rebelles. Nous sommes tous issus de ce monde. C'est ce que vous étiez. C'est ce que vous étiez, l'apôtre Paul dit. Des anciens rebelles qui, par la grâce du roi, avons été gagnés à l'amour de Christ, à l'obéissance, au prix, parfois, de perdre ce qui nous entoure, parce qu'ils restent des rebelles. À un moment donné, il faut secouer la poussière de ses pieds, comme on dit. Malheureusement, les gens, on les perd. Même les gens de nos familles, même les gens qu'on aime profondément, parce qu'on refuse le compromis. Alors, on ne peut pas se considérer comme supérieur, ça c'est sûr. On n'est pas supérieur aux autres. On est conscient que notre nature a besoin d'être crucifiée. C'est peut-être sur ce point-là que nous ne communiquons pas assez. Peut-être on a tendance à proposer aux gens quelque chose, mais sans leur dire que nous, on en a déjà besoin. Tu vois ? Le médicament qu'on propose, on dit, mais écoute, moi j'en ai besoin aussi, tu sais. Peut-être c'est cet aspect-là dans nos rapports avec le monde qui peuvent aussi encourager les gens à nous regarder différemment. Pour ça que les gens nous disent, mais ils disent aux chrétiens, mais vous vous prenez pour qui des fois ? Vous n'êtes pas parfait. Hein. Et c'est pour ça que souvent, quand on leur propose de lire la Bible ou de venir à l'église, non, mais écoute, moi l'église, ça va, je vis ma foi, je suis croyant, hein, mais ne me parlez pas d'église, hein, trop d'hypocrisie. Et là, on revient au début, pour ça j'ai commencé par le verset 17. C'est là qu'on a besoin de se retrouver à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Éphésiens 2, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon les convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. J'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, tu as été choisi du milieu du monde. Tu as été gagné par l'amour du Messie pour constituer ce groupe de chrétiens qui est là ce matin, et ailleurs, bien sûr, parce que tu appartiens à Christ. Tu fais partie des siens. Tu es encore dans le monde, mais tu as un nouveau statut. Tu as un nouveau statut. Tu es un étranger. Tu ne t'attendais pas à celle-là, mais... Tu es un étranger. Tu as la carte de séjour, mais tu es un étranger, en fait. Tu as la carte de séjour et écrit chrétien. En fait, tu es un paria de ce monde. Parce que tu te rends compte de ça. Tu réalises que tu es un paria de ce monde. Selon ce texte, il n'y a pas d'autre solution. Ce statut, il n'est pas au top. Hein. Ce n'est pas génial, hein, quand on te dit que tu es un paria de ce monde. Quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta culture, quand tu es devenu chrétien, tu n'es plus de ce monde. Tu es un paria. D'où l'enjeu, le défi que nous avons de ne pas nous laisser entraîner dans toutes sortes de compromis, y compris théologiques. Ce que nous avons, nous devons le conserver et le préserver. Jésus nous dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ben ils la garderont aussi la vôtre. Au chapitre 13, Jésus nous avait déjà dit que le serviteur n'était pas plus grand que son maître. Là, il applique le même principe, mais à la persécution. Dans le chapitre 13, il appliquait ça au fait d'être élevé, quoi. Dire, voilà, je suis quelqu'un d'important. Non, non. Et ceux qui prêchent et vivent l'évangile en faisant tout leur possible pour vivre en conformité avec l'enseignement de leur maître, s'attirent les mêmes oppositions. Il y a deux façons de lire ce texte. Je vais vous le dire. Première façon, s'ils m'ont persécuté, et ils l'ont fait, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mes paroles, et ils ne l'ont pas fait, ils garderont aussi les vôtres, ce que bien entendu, ils ne feront pas. D'où la traduction, ils n'ont pas obéi à mes paroles et n'obéiront pas non plus aux vôtres. Version parole de vie, ce qui à mon avis est totalement faux. Faux, pourquoi ? Parce que cette façon de lire, elle est tellement radicale que la conversion devient pratiquement impossible. Je relis le texte avec ces mots-là, et ça serait étrange parce que les disciples ont été choisis du milieu du monde, parce que c'est aux disciples que ça s'adresse, hein. D'abord, verset 19. Et que Jésus va prier pour ceux qui croiront grâce au témoignage de ses disciples. Jean 17. Un peu plus loin, il dit, Jean 17, verset 20, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. » Car Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas ? Les gens peuvent se convertir, ils ont le choix. Deuxième raisonnement, et à mon avis c'est le bon. S'ils m'ont persécuté, et beaucoup l'ont fait, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, et quelques-uns l'ont fait, ils garderont aussi la vôtre. Je préfère cette lecture. Chapitre 12. Souvenez-vous, moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera. On continue. Chapitre 15, verset 21, qui vient indiquer la raison, l'origine, l'opposition haineuse soulignée au verset 18 et 20. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. À cause de moi, dans la traduction NBS, c'est à cause de mon nom. Ils nous persécutent à cause du nom de Jésus. Alors, le verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser ça. Ça veut dire que ce matin, je suis en train de vous dire que nous ne sommes pas persécutés ni haïs à cause de ce que nous sommes, des chrétiens. Presque je dis le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais il faut bien arriver au fond des choses. Mais nous sommes haïs à cause de ce que Jésus est. Parce que si les gens du monde connaissaient vraiment Dieu, ils auraient reconnu sa révélation en Jésus. Et du coup, ils reconnaîtraient ses disciples. C'est comme les dominos. Bien sûr que c'est à l'amour qu'on reconnaît les disciples. Mais le prix à payer, c'est parfois plus que la dame qu'on va éviter aux agapes pour qu'elle découvre l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est vrai qu'avec le temps, cette personne-là peut être touchée par le Saint-Esprit. Elle finira par se donner à Jésus. Mais parfois, ce genre d'amour peut nous coûter la vie. Pas ici, mais ailleurs, oui. Ailleurs, oui. Ce genre d'amour peut nous coûter la vie. Tu invites les gens, je ne sais pas moi, en Algérie, tu fais des tracts là, tu dis voilà, venez, témoignage de Dalila, d'ailleurs que vous allez faire bientôt, hein, tu vas faire bientôt là, mais tu peux y rester quoi. L'incapacité à reconnaître Jésus, c'est une preuve accablante. Et malgré que beaucoup de gens affirment connaître Dieu, sans le Jésus de l'Écriture, ils ont de Dieu une connaissance qui est complètement déformée, limitée. Et c'est l'idée que va développer Jésus au verset 22 à 24. Je les relis. « Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vues. » Et ils nous ont, d'un coup ils parlent au pluriel, moi et mon père. Les dominos. Attention à la traduction, si je n'étais pas venu et que je n'aurais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Vous avez cette traduction dans la Bible ? Jean 15, 22. Ça ne veut pas dire que Jésus introduit la notion du péché. Ça ne veut pas dire que si Jésus n'était pas venu, on ne saurait pas ce que c'est le péché. Mais le péché par excellence, c'est le rejet de Jésus. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus. C'est le péché le plus fondamental qui existe, le plus absolu, parce que c'est celui du rejet de la révélation de la grâce de Dieu. Si tu n'as pas la révélation de la grâce de Dieu, mais tu es perdu. On l'a chanté, non ? Heureusement que ce n'est pas par la loi, parce que je suis perdu. Alors Jésus reproche à ses contemporains galiléens leur refus de se repentir, et il leur annonce qu'à cause de ce refus, ils seront jugés plus sévèrement que certaines villes, rappelez-vous, Tyr, Sidon, voire même Sodome, dont la méchanceté était devenue proverbiale. Alors il se mit à faire des reproches sévères aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, c'est intéressant, hein ? Elles subsisteraient encore aujourd'hui. Les gens se seraient repentis. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. C'est pas la rigolade, hein ? La reine païenne du Midi et l'ancienne cité de Ninive s'en sortiront mieux que les auditeurs de Jésus. Parce qu'ils ont accueilli, parce qu'elles auraient accueilli, ils auraient accueilli favorablement la prédication de Jésus. Luc 11, la reine du Midi se lèvera lors du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Waouh ! Vous savez, parfois on est effarouché dans nos milieux, scandalisé, lorsqu'on met en contact, on est en contact, et moi le premier, des fois je suis mal à l'aise, avec des chrétiens qui semblent vouloir voir des miracles. On est effarouché. Ils veulent voir, ils demandent des signes. On est un peu frileux par rapport à ça. Je vais vous dire un truc. Bien sûr que notre foi ne devrait pas être basée sur la vue. Une foi qui est basée sur la vue, c'est une foi, on va dire, qui n'est pas de grande qualité. Mais, peut-être qu'il vaut mieux ce genre de foi que pas de foi du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des gens qui demandent des signes, etc. Mais parfois, je me dis, ben, peut-être qu'il vaut mieux ça que pas du tout. Parce qu'au moins, ils demandent quelque chose. Dans notre texte, Jésus nous explique qui est celui qui raconte Dieu dans le contexte de l'existence humaine. On haït Jésus, on hait Jésus, on est le Père. Aimer Jésus, c'est aimer le Père. On arrive pas par hasard au verset 26, puisqu'il dit « Quand il sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Maintenant, ils n'ont aucune excuse pour le péché. Pas d'excuse. On ne peut pas avoir des prétextes. Vous connaissez des gens qui ont des prétextes ? Sûrement. Beaucoup de prétextes. Beaucoup, beaucoup. Qui peut justifier son péché ? On a tous besoin de la justification par l'œuvre de Jésus. Et là, on arrive, le verset 25 cité tout à l'heure, hein, que cette parole écrite dans leur loi soit accomplie. Ils m'ont haï sans cause. La haine ne peut remettre en cause le plan de Dieu. Le plan de Dieu se déroule. Le rejet, la haine, servent à accomplir même la parole qui est écrite dans leur loi. Les gens qui haïssent Jésus, ils sont en train de se condamner eux-mêmes parce que c'est écrit. Ils m'ont haï sans cause. Ils ont haï David. Si David a été haï sans cause, Jésus peut l'être aussi. Versets 26 et 27, on arrive au bout. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Il y en a qui ont dit que ces versets ont été rajoutés, parce que c'est un peu en coupure du texte. C'est faux. C'est pas possible. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui va faire le lien entre le départ de Jésus et les disciples. Parce que c'est à partir de la Pentecôte que les chrétiens vont être persécutés. Et que persécuter les chrétiens, c'est persécuter Jésus. Les chrétiens que nous voyons qui sont persécutés, vous croyez, vous dites, ah, les pauvres, ces hommes-là, mais c'est pas des hommes qui sont en train de persécuter, pas que des hommes. On est en train de persécuter Jésus. 16, 1 et 2. Je vous ai parlé ainsi parce que pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues. Vous voyez, ils s'adressent bien aux disciples. Hein. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Expulsion violente des synagogues. Qu'est-ce que faisait Saul de Tarse? Il faisait ça. L'heure vient. En fait, il est en train d'indiquer le départ, son départ, après sa mort et sa résurrection. Il est en train de prévenir ses disciples en disant « L'heure vient, après mon départ, où vous allez être persécutés. » La première persécution, elle venait des Juifs. C'est clair. Justement parce que l'Église sortait du judaïsme, donc ça venait des Juifs. Tous ses premiers membres à l'Église étaient des Juifs. Tous les premiers membres. C'est pour ça que Paul, quand il parlait de Christ, ben, c'était chaud, hein. Combien de fois il a reçu 39 coups? 40 coups moins 1? Combien de fois? Parce qu'il était juif. Parce qu'il était juif. Et sachez même que c'est un châtiment prononcé exclusivement par l'autorité de la synagogue. Ce n'était pas les Romains, hein, ni les Grecs, ni qui que ce soit. C'était l'autorité de la synagogue qui ordonnait qu'on lui donne des coups. Il y a même des écrits qui affirment qu'au 1er siècle, la mise à mort d'hérétiques pouvait être un acte de culte rendu à Dieu. Donc c'est prouvé. L'opposition la plus violente n'est jamais venue des païens, mais des croyants. On va terminer par les deux derniers versets, 3 et 4. Chapitre 16, versets 3 et 4. « Et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. » Je vous ai parlé ainsi parce que, pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. J'étais là. Heureusement, mes amis, qu'on a la Bible et le Saint-Esprit pour nous rappeler ce que Jésus a dit. Heureusement. Jusqu'au moment de son arrestation, Jésus a protégé ses disciples de manière physique. Il le fait encore, hein. C'est pas ça que je veux dire, hein. Mais il était là. Souvenez-vous. Jean 18. Jésus de Nazareth. Jésus répondit. Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. C'était afin que ça accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Il protégeait ses disciples. Je crois que c'est une belle conclusion pour aujourd'hui. Parce que Jésus est avec nous. Parce que nous sommes ses disciples. Il ne perdra aucun de ceux qui lui appartiennent. Quoi qu'il arrive, même au milieu des pires situations, il est là, nous lui appartenons, nous sommes à lui. Vous savez, quand Saul de Tarse a persécuté les chrétiens et qu'il est tombé là de son cheval, il a entendu cette voix qui disait « Je suis Jésus que tu persécutes ». Quand on persécute les chrétiens, on persécute Jésus. Ça fait de la peine pour les gens que nous aimons autour de nous et qui nous rejettent, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ne nous rejettent pas nous. Qui nous rejette nous, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'ils rejettent Jésus. Il nous a établis pour que nous portions du fruit dans n'importe quelle circonstance, même les plus difficiles, les plus tragiques. Je crois que dans des circonstances difficiles de persécution, je pense que Dieu est encore plus présent. D'ailleurs, c'est ce que suggère c'est le printemps de la foi. C'est l'hiver de l'Église, mais c'est le printemps de la foi. Même au milieu de nos doutes, hein, souvenez-vous, je le dis souvent, parce que c'est ce qui m'a touché cette année, Jean-Baptiste en prison. « Es-tu celui qui doit venir ?» Le cousin de Jésus pose la question à Jésus. Mais Jésus est là. Il nous répond. On ne va pas refaire l'actualité ce matin. Hein. Nous sommes en opposition au monde, c'est une réalité. Je ne vais pas en dire plus. Nous nous sommes concentrés juste sur le texte ce matin. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour la joie que nous avons de te connaître. Seigneur, être chrétien, c'est vraiment une responsabilité, mais on réalise par ce texte que finalement, le rejet, la persécution, les moqueries, le mépris, Seigneur, c'est à toi qu'on les fait au travers de nous. Et Seigneur, nous voudrions ce matin simplement te prier pour ceux que nous croisons, ceux qui sont de nos familles aussi, qui ne te connaissent pas. Te prions pour tous ceux que nous avons croisés aussi samedi matin, que ce soit sur le marché ou même à la maison d'arrêt à Grasse. Tous ceux que nous côtoyons, Seigneur, et qui ne te connaissent pas. Nous voudrions les remettre entre tes mains, Seigneur. Nous voudrions tellement qu'ils t'appartiennent. Révèle-toi, Seigneur, à eux. Aide-nous à nous de vivre vraiment conformément à ce que tu attends de nous. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos manquements et nos échecs. Et merci parce que tu nous gardes. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.